Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au sommaire, le gouvernement demande de la fermeture d'une mosquée radicalisée à Allonne, dans la Sarthe, tout près du Mans. Deux associations qui gèrent ce lieu accueillant 300 fidèles et surtout une centaine d'élèves dans une école coranique sont visées, accusées de légitimer le recours au terrorisme, notamment devant les enfants, et de prôner la mort en martyr ou l'instauration de la charia. Six autres mosquées seront fermées dans les prochaines semaines. On fait un point complet ce soir. D'autre part, Gérald Darmanin appelle les préfets à une vigilance totale un an après la mort de l'enseignant Samuel Paty. Vigilance notamment dans et aux abords des établissements scolaires. Les forces militaires sentinelles seront mobilisées pour protéger les écoles au moment de ces commémorations en fin de semaine. L'élève de 18 ans qui avait agressé sa professeure à Comblaville vendredi dernier a été condamné à 5 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans, à 140 heures de TIG, travaux d'intérêt général, un stage de citoyenneté et l'interdiction de rentrer en contact avec sa professeure. Les deux autres mineurs qui avaient eux filmé et posté la vidéo sur les réseaux sociaux seront présentés prochainement à un juge pour enfants. Des policiers visés nommément par des tags sur les murs d'une cité de Vigneux dans l'Essonne où le trafic de drogue sévit, des insultes violentes avec les plaques d'immatriculation des policiers de la BAC et des menaces plus personnelles visant les compagnes de certains d'entre eux. Les policiers ont décidé de porter plainte. De récentes descentes anti-stupéfiants pourraient avoir motivé ces menaces. Enfin, le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'à l'été prochain a été présenté ce matin. Le gouvernement maintient donc le pass sanitaire pour éviter de baisser la garde trop longtemps. L'épidémie n'est pas finie, a rappelé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. On va débattre de tous ces sujets ce soir avec mes invités. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Le député Les Républicains, Éric Diard, des Bouches-du-Rhône. Là, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes avec un autre député, La République En Marche, du Rhône. C'est Bruno Bonnel. Bonsoir,
bonsoir.
Bruno Bonnel. Et Karim Zerebi, qui est consultant CNews.
Bonsoir,
bonsoir à tous les quatre. On va tout de suite démarrer par cette fermeture d'une mosquée soupçonnée de radicalisation tout près du Mans, dans la Sarthe. On est avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Sandra, bonsoir. Ce sont deux associations qui sont réellement dans le collimateur du préfet, c'est cela ?
Oui, parce que ces deux associations, ce sont les deux structures qui gèrent cette mosquée d'Allonne, fréquentée par environ 300 fidèles. Et selon nos informations, elle pourrait dans un second temps être dissoute. Pour l'heure, nous avons appris que depuis vendredi, les avoirs de ces deux structures ont été gelés, de même que les avoirs de plusieurs personnes qui dirigent ces deux associations. La fermeture administrative qui, elle, est demandée pour la mosquée répond, selon le préfet, à plusieurs problématiques, plusieurs dérives. D'abord, il explique que plusieurs fidèles qui s'y rendent appartiennent ou sont proches de la mouvance islamiste radicale. Ensuite, il évoque plusieurs prêches qui auraient été tenues dans cette mosquée et qui ont légitimé le djihad armé, la mort en martyr ou encore la commission d'actes de terrorisme. L'autre point d'inquiétude des services de l'État, c'est que sur le site de cette mosquée, vous l'avez dit, il y a une école coranique fréquentée par environ 110 enfants et même devant eux, alerte le préfet, des individus ont prôné le djihad armé. Le préfet qui considère donc qu'au regard de ces éléments, ce site est devenu un lieu d'endoctrinement.
Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces explications. On débat de cette fermeture de la mosquée d'Allonne tout de suite dans Punchline. C'est parti pour ce soir.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque la fermeture de cette mosquée dans la Sarthe, tout près du Mans. Bruno Bonnel, vous êtes député de La République En Marche. Pourquoi est-ce qu'on a tardé finalement à fermer cette mosquée si, évidemment, il y a des prêches djihadistes qui appellent au djihad, qui demandent l'instauration de la charia, qui prônent la mort en martyr? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu tardé? Certes, on le fait, et c'est à mettre à l'actif des services de renseignement
et de
la police de ce pays. Néanmoins, est-ce qu'il ne il fallait pas agir un peu plus tôt.
Moi, je trouve quand même un peu toujours fort de café de dire il y a une action qui est faite, elle est trop tôt, trop tard, pas assez, trop loin. Là, je ne sais pas pourquoi c'est maintenant. Il y a eu une instruction, il y a eu des témoignages, il y a eu un processus démocratique. Moi, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est qu'elle est bien fermée, cette mosquée, et c'est bien la différence entre une, justement une mosquée qui prône le terrorisme et qui appelle, effectivement, qui encourage le martyr, et les centaines d'autres mosquées dans lesquelles ça se passe bien. Donc je pense qu'il faut trouver cet équilibre, et c'est là que la justice de ce pays est importante. Alors, ça tombe maintenant, ça aurait pu tomber il y a 6 mois ou dans 6 mois. Il n'empêche qu'il fallait arrêter cette espèce de déferlement de haine, d'après ce qu'on comprend, d'après votre
reportage. Éric Diard, il y a aussi des enfants qui étaient dans cette école coranique. Il fallait faire attention très très vite à ce qu'on pouvait leur mettre dans la tête.
Bien sûr, puisqu'on parle d'endoctrinement des enfants, et donc... prôner à des enfants de cet âge-là le recours à djihad armé, prôner la charia. Enfin, moi, je suis quand même assez étonné. C'est pas. Alors, j'entends des mosquées qui ne respectent pas les valeurs de la République, mais là, on est au-delà. On est une mosquée. Elle est pas à Londres. On est à Kaboul chez les talibans. Charia, légitimer les actes terroristes, appel au djihad. Enfin, voilà. Il était temps, je pense, de la fermer. Et c'est une bonne mesure.
Alors, que se passait-il exactement à l'intérieur de cette mosquée? On va écouter le récit de Reda Emrabi et on en parle ensuite. On en débat ensemble.
Près de 300 fidèles venaient chaque semaine prier dans cette mosquée à quelques kilomètres du Mans. Depuis ce midi, on peut apercevoir une affiche « Mosquée fermée pour raisons administratives ». La préfecture a agi à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui justifie sa décision sur Twitter.
« Sur mon instruction, le préfet de la Sarthe a engagé la fermeture de la mosquée d'Alonne. Les prêches y prônent notamment le recours au djihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme et le recours à la violence. »
Face à une potentielle menace, le gouvernement a opté pour la fermeté, comme l'indique son porte-parole, Gabriel Attal.
Nous sommes inflexibles face à l'islamisme. Et nous sommes intransigeants face à la haine et à la radicalisation. Quand on attaque la République, elle doit répondre, et elle doit répondre fort.
Une mosquée qui serait fréquentée par des individus proches de la mouvance islamiste radicale. Des justifications qui contrastent avec le témoignage de ce fidèle, Amara.
De toutes les prêches que j'ai vues, c'est bon enfant, c'est bonne éducation, quoi. Voilà, vous êtes en France, vous êtes né ici, vos parents sont nés là-bas, mais bon, comportez-vous, il y a la loi de la République, il y a ci, il y a ça, voilà, quoi.
Avec la mosquée d'Alone, l'exécutif souhaite fermer 6 lieux de culte.
Karim Zerebi, il était urgent néanmoins évidemment de fermer cette mosquée où des propos absolument inacceptables étaient tenus régulièrement.
Ben, les accusations sont graves. Elles sont graves et le danger était réel. Moi, je salue le travail de nos services. Ils font un travail de fond qui est difficile. Ils bénéficient certainement, et c'est très bien, d'informations provenant aussi de pratiquants, de musulmans, qui, assistant à certains prêches, sont parfois scandalisés et en informent nos services. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que les fidèles musulmans, qui dans leur immense majorité sont respectueux des lois de la laïcité, des lois de la République et des principes de la laïcité, travaillent aussi, que ce n'est pas aucunement de trahir qui que ce soit. Au contraire, c'est d'être fidèle à l'islam, qui est compatible avec la République et avec la laïcité, et d'informer nos services pour qu'ils fassent leur travail. Ils ferment une mosquée lorsque celle-ci doit être fermée. En plus, derrière, il y a une école coranique, il y a des enfants. C'est-à-dire qu'on peut endoctriner des esprits fragiles, qu'en devenir. Je ne mégoterai pas sur le timing. Je pense que si ça a été fait, ça a été fait au bon moment. Je fais confiance dans nos services, ils déjouent des attentats régulièrement, ils mettent sous les verrous que des gens qui portent atteinte aux valeurs de la République. Ils font un travail remarquable, il faut les saluer.
Éric Diard,
je suis quand même un peu
vous
surpris.
Qui êtes spécialisé dans les questions de radicalisation.
Par le manque d'humilité, le satisfecit de Gabriel Attal. J'allais dire, premièrement, si une mosquée comme ça, on ne la ferme pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, moi je dis c'est très bien. Enfin, il est légitime et il était urgent de fermer une telle mosquée qui était non tellement, premièrement, un incubateur à radicalisation et peut-être...
Mais elle est fermée, Eric.
Elle est fermée,
quel est le reproche qu'on peut faire à Gabriel Attal?
Non, mais alors, de c'est dire, ça, nous sommes inflexibles.
Il faut qu'il y ait une unité nationale autour de ce genre d'acte.
Non, mais nous sommes inflexibles. Mais j'allais dire oui, et heureusement. J'allais dire heureusement que l'État est inflexible face à de telles dérives. Quand même, pour
ça ne doit pas nous choquer qu'ils le disent.
Moi, ça me choque parce que, j'allais dire, il faut quand même rester humble sur de tels sujets. Et d'autres ministres le disent, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas simple. On a des exemples de dysfonctionnement. Et donc là, l'État a agi, la préfecture a agi, les services de renseignement ont été, je pense, très bons. Comme ils surveillent très bien nos mosquées. C'est, j'allais dire, autant sur certains sujets, dans le sport, dans les universités. J'ai des inquiétudes parce que ça arrive à passer
dans les associations sportives.
Dans les associations sportives. Autant les mosquées, c'est quelque chose que nos renseignements surveillent plutôt bien. Je n'ai pas dit que voilà, le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. Mais là, je dois vraiment leur dire qu'ils font un travail remarquable.
Jean-Claude Dacier, un mot sur cette fermeture.
Je salue aussi le résultat, que là-dessus, on soit très clair. Néanmoins, j'avoue qu'à l'écoute des propos du ministre porte-parole du gouvernement, M. Attal, c'est effrayant. Enfin, ce que l'imam ou les imams ont expliqué, prôné devant les 300 ou 350 membres de la mosquée, j'espère qu'il n'y a pas longtemps que cet imam s'était converti à la violence islamique. J'espère. Vous rendez compte des dégâts que ça fait quand vous prêchez, en effet, le djihad, l'imam, la guerre des religions, la grandeur de se suicider en faisant un attentat, et que vous avez 300 personnes qui écoutent un prêche pareil. Encore une fois, bravo à la police, ça doit pas être simple. Et je suis même sûr que ce n'est pas simple. Il y a 89 mosquées qui ont été mises dans le collimateur. Il y en a déjà un tiers de fermées. Il y aura derrière le problème des écoles qu'il faut aussi surveiller de très près. On a tardé globalement à mesurer la grandeur, la menace, la réalité de la menace. On a eu une politique d'immigration, et pas depuis 4 ans, Monsieur Bonnel, depuis longtemps, qui n'était pas raisonnable. On se rend compte maintenant qu'on a fait un peu tout et n'importe quoi, et qu'on a en face de nous un danger important, avec des gens qui sont fous. Nous ne sommes pas une terre de conquête. Nous ne sommes pas une terre à conquérir.
Attention, il y en a qui le disent trop fort.
Et justement, il faudrait qu'en face, on se rende compte qu'on ne va pas se laisser faire.
Alors, le gouvernement qui a mis en place une loi pour réguler le financement des mosquées.
Il faut s'y mettre.
Pour surveiller pour faire une condition pour comment les gens vont dans les écoles coraniques, j'allais dire, qui sont détournées. Les familles disent, on veut récupérer les enfants pour faire l'enseignement à l'école. Avant, c'était a posteriori, on disait d'accord, récupérez vos enfants, puis on verra bien comment ça se passe. Là, on dit non, on veut qu'a priori, on vous donne l'autorisation. Ça, c'est le gouvernement actuel qui l'a mis en place, toutes ces lois-là. Donc je pense que, là je suis entièrement d'accord avec Karim, on doit faire nation là-dessus, on ne doit pas se battre, on doit se dire, il faut, pour le coup, vraiment combattre tous ensemble ce terrorisme islamiste. Et alors, vous avez bien vu l'ambiguïté. Ce brave monsieur qu'on a vu nous dire, mais moi, je comprends pas, le prêche, il est super, l'imam, il a dit des trucs sympas. Parce que dans la réalité, ça se passe pas forcément à la prière du vendredi. Ça peut se passer à la prière l'après-midi. Repassez cet après-midi, on a un autre truc à vous dire. C'est pas aussi simple. C'est pour ça que le travail des services est capital.
Absolument à applaudir.
Sans aucun doute. Moi, je voulais insister. Effectivement, ça a été dit. Je ne pense pas que ce soit fait de manière, j'allais dire, au vu au sud de tout le monde. C'est pernicieux, ce travail de radicalisation. Non, mais on n'a pas besoin d'être musulman pour ça. Je veux dire, on écoute celui qui a témoigné, il dit, moi, on disait que c'est compatible. Alors, il peut y avoir plusieurs imams, il n'y en a pas qu'un. Donc, il y a celui qui fait le vendredi, il y a celui qui peut convoquer des petits groupes la semaine, parce que, effectivement, celui-là est radicalisé. Donc, c'est pour ça que le travail de nos services, c'est pas un travail facile. Et moi, je vais vous dire, quand on ferme une mosquée radical, on rend service à la République, on rend service à notre pays, on rend service à tous les Français, on rend service aux musulmans. Oui. Parce que les musulmans aujourd'hui, quand ils sont gangrénés de l'intérieur, ce sont les premières victimes par ce dévoiement de l'islam. Donc il faut absolument être intransigeant. Mais moi, il y a une question qui me taraude, et celle-là, je la remettrai toujours sur la table. Lorsque ces imams qui prônent la radicalisation, la haine, le djihad, ne sont pas citoyens français, il faut absolument que nous ayons cette capacité à les expulser de notre pays. Ils n'ont rien à faire sur notre sol, ils n'ont même pas à aller contaminer nos prisons si la justice décide de les enfermer. Parce que nos prisons sont déjà suffisamment gangrénées de l'intérieur, par la radicalisation. On a des délinquants de droit commun qui rentrent en prison et qui sortent, effectivement, prenant des armes, et on l'a vu, pour aller faire des attentats. Donc ça veut dire que nous avons un problème de fond, il faut que nous puissions détacher expulser donc ceux qui ne sont pas français lorsqu'ils prônent la haine, la radicalisation et l'islamisme qui est le dévoiement de l'islam.
Zeribia, député Les Républicains.
Karim Zeribi a raison. Mais parce qu'il faut fermer la mosquée. C'est pas la mosquée. Je veux dire, la mosquée, elle est fermée, elle réouvrira avec un imam posé. Voilà. Donc c'est autre chose. Il faut vraiment être intransigeant avec ces imams. Et même parce qu'ils n'ont pas parlé que d'imams, ils ont parlé aussi de fidèles qui prêchent la haine. Alors s'ils sont étrangers, ils doivent rentrer dans leur pays immédiatement. Moi, je voulais quand même rebondir sur ce qu'a dit mon collègue Bruno Bonnel. Oui, je... Allez, on a voulu mettre un régime, justement, d'autorisation sur l'instruction en famille, en domicile. Mais pourquoi, alors, on reste dans un système de déclaration pour les écoles hors contrat ? Pourquoi on n'est pas passé au système d'autorisation ?
On va refaire la loi ici. Mais non, mais je voulais juste dire que sur ce point-là...
Voilà, ça, c'était un symbole de fermeté. Ces écoles peuvent ouvrir comme elles veulent et quand vous...
Mais parce que, Eric, vous savez très bien que c'est parce que ça ne concerne pas que cette partie-là de la loi, parce que je ne voulais pas rentrer dans la technique. Ouais, ça ne concerne pas que l'islam, c'est toutes les religions. Donc vous allez avoir les gens qui vous disent, mais moi je veux, même les écolos, même les mecs qui veulent éduquer leurs enfants dans la nature, les gens, les Montessori, les n'importe quoi.
Mais si
loi, elle couvrait toutes les options pour dire, si vous êtes parent, je vais m'occuper de mon enfant, bah, l'éducation nationale dit, expliquez-nous.
Il y a une protestation vigoureuse contre ceux, justement, qui éduquent leurs enfants chez eux.
Mais je
l'entends,
ça.
Qui ont obtenu le droit de le faire.
Qui ont obtenu le droit de continuer.
Allez, je peux l'entendre. Mais par contre, on va ouvrir un établissement hors contrat, avec peut-être des professeurs qui sont radicalisés, on le laisse ouvrir, il n'est pas soumis à autorisation, on le fait fermer, il change d'association, il rouvre. Il y a quand même encore une faille dans ce système.
Il y a encore un trou dans la raquette. Karim, un tout dernier mot.
Je n'ai pas vu passer de communication, je ne veux pas leur jeter la pierre, ils l'ont peut-être fait, du Conseil français du culte musulman, j'espère qu'ils se sont prononcés dans ces cas-là, avec la plus grande fermeté, évidemment, donc on ne peut pas attendre autre chose, mais j'espère aussi que ce travail qui consiste à former des imams a été engagé par ce Conseil français du culte musulman, parce qu'on va commencer à se demander à quoi il sert, sinon. Donc, une instance représentative, elle ne vaut que si elle fait un travail de contenu, un travail de fond, donc qui peut effectivement démontrer, parce que encore une fois, l'immense majorité des musulmans respectent la République et la laïcité. Il faut que ce Conseil français du culte musulman forme des imams, donc sur notre sol français, qui puissent être dans les mosquées.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve avec Eric Diard, Bruno Bonnel, Karim Zeribi et Jean-Claude Dassy dans un instant. On va parler des menaces contre des policiers, des menaces taguées sur les murs d'un immeuble dans l'Essonne avec le nom, les plaques d'immatriculation et le nom des compagnes des policiers de la BAC. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ces menaces contre les policiers, menaces quotidiennes. Il y en a eu récemment dans l'Essonne, dans un immeuble, des tags avec le nom des policiers, leur plaque d'immatriculation, ainsi que le nom de leur compagne. Des menaces qui provoquent évidemment beaucoup d'émotions dans les rangs des forces de l'ordre. Récit de Jeanne Cancard.
C'est dans ce hall d'un immeuble à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne que des policiers découvrent ces inscriptions.
Les bleus, il n'y a plus d'avertissement. Maintenant, on va vous...
Ancien bleu de Grenoble, on va venir te chercher.
Des tags qui citent nommément une quinzaine de policiers de la BAC du secteur et leur lieu d'habitation. D'autres propos visent même directement les membres de la famille des forces de l'ordre.
Ta fille, la...
De récentes opérations anti-stupéfiants menées dans ce secteur pourraient être à l'origine de ces menaces. Mais en s'en prenant aux proches de ces fonctionnaires, une ligne a été franchie selon ce syndicat.
C'est une véritable chasse aux flics qui est organisée aujourd'hui contre les policiers. Et le sentiment d'insécurité, il est réellement présent. Pas pour les policiers en lui-même, mais comme je le répète, à longueur de journée, aujourd'hui le policier s'inquiète pour sa famille avant tout.
Des plaintes vont être déposées aujourd'hui par les policiers visés pour menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique.
Et on est en ligne avec Grégory Geron, secrétaire général du syndicat de police Unité SGP. Bonsoir à vous. Évidemment, vous êtes choqué par ces inscriptions, car il s'agit de menaces réelles pour vos collègues.
Choqué, oui, mais malheureusement habitué. Je rappelle que dans le week-end encore, à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, il y a eu le même genre de tag, donc intimidation, menace, on s'en prend aussi à la famille, on en est justement aux plaques d'immatriculation, vous l'avez dit. Donc choqué, oui, mais on est tellement habitué, c'est tellement récurrent et on le dénonce tellement, vous le savez, et merci d'en faire l'écho sur votre antenne, puisque c'est clairement la bêtise qu'on lit sur les murs, là les anti-flics qui se répandent de plus en plus et une habitude qu'on n'arrive pas à prendre face à ce genre de choses.
Grégory Jean, ça veut dire que les policiers sont pistés, suivis depuis leur lieu de travail jusque là, leur lieu, leur habitation, le lieu de travail de leurs conjoints, conjointes, leurs enfants à l'école.
Oui, mais c'est ça fait partie des menaces existantes, ça fait partie de ce qu'on dénonce régulièrement, ça se fait partie des arguments qu'on a avancés aussi. Rappelez-vous, quand on a défendu l'article 24 dans la PPL Fauvert-Thoreau, ça fait partie de cette protection fonctionnelle qu'on demande. Et je pense qu'il y a une chose simple aussi qu'on devrait élargir rapidement, c'est de l'anonymisation des policiers dans les procédures. Quel que soit l'acte, aujourd'hui, c'est déjà prévu selon les infractions qui sont concernées et ciblées. Je pense qu'il faut l'élargir aujourd'hui à tout ce qu'on peut faire dans la police et tout ce qui peut permettre d'identifier un policier.
Bien sûr. Mais ça veut dire que concrètement, chaque jour, les policiers partent au travail en ayant peur pour eux, mais aussi peur pour leurs proches, désormais.
Mais rappelez-vous, je l'ai déjà dit, malheureusement, déjà, tous les policiers, je pense, sont très prudents, demandent régulièrement à leurs enfants de ne pas désigner la profession du père ou de la maman si elle est policière. Et ça, c'est une vraie réalité. Et ensuite, beaucoup aujourd'hui, clairement, font trois tours de rond-point en rentrant chez eux pour faire attention de ne pas être suivis. On a eu une alerte en interne ce week-end dans le 77 où un collègue de là-bas qui était clairement suivi par une BMW montée par trois individus lorsqu'il rentrait chez lui. Tout ça, c'est des choses qu'on nous remonte tous les jours et c'est juste une tartine de réalité que nous, décideurs, devraient prendre en compte.
Karim Zeribi, vous avez une question pour monsieur.
Grégory, bonjour. Est-ce que vous diriez, comme le ministre de l'Intérieur, que c'est parce qu'on a mis la pression très fortement sur des petits caïds, là, des groupes de trafiquants, qu'il y a cette forme de riposte très, très ciblée? Première question. Et deuxième question, très franchement, si on veut se donner les moyens de leur mettre la main dessus en mettant le paquet, on peut le faire. On connaît les délinquants dans ces quartiers. Donc, et on pourrait remonter avec des expertises qui existent et qui peuvent être utilisées. Savoir qui a écrit ces saloperies.
Sur la première question, forcément, il peut y avoir une relation de cause à effet, en effet, avec la pression mise sur les points stup, etc. Mais bon, globalement, de toute façon, encore une fois, on peut se replonger dans les archives et voir que malheureusement, ce genre de choses arrive depuis maintenant de très nombreux mois. C'est simplement la récurrence qui est inquiétante, clairement, puisque c'est devenu aujourd'hui la mode et tous les quartiers affichent le nom de mes collègues sur leur mur, carrément. Donc, il y a sûrement peut-être une accélération. La récurrence vient peut-être, en effet, de la pression mise sur les points stup. Le deuxième point, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre fin à ça? De toute façon, on sera capable dès lors qu'il y aura une vraie volonté politique. On en a déjà discuté plein de fois. Ça passe forcément par l'identification, forcément par l'arrestation, mais forcément aussi par la traduction devant la justice. Et clairement, on ne va pas recommencer le débat de la justice et de la réponse pénale, mais clairement, dans le maillon et dans la chaîne, le petit manque ou la petite faiblesse, elle est sûrement là quand même.
Encore une dernière question, Grégory Joron, et qui n'est pas liée à ce qui s'est passé dans l'Essonne, mais ce qui s'est passé à Cachan lors d'un conseil municipal. Un des adjoints, France Insoumise, a affirmé que les policiers municipaux, s'ils étaient armés, c'était dans le but de tuer la population au lieu de la protéger. Comment vous réagissez à cela ?
Bon, écoutez, je suis pas un fan des réseaux sociaux, pour tout vous dire, mais je me suis permis de rédiger le titre au nom de mon tweet au nom de mon organisation, et je l'ai résumé de manière assez simple. Moi, si ce monsieur qui s'est exprimé croyait que la police était là pour protéger la population et pas pour la tuer, ben moi je pensais qu'un élu avait un peu de nuance, avait un peu de retenue, avait un peu de discernement et avait un peu de décence. Et vraisemblablement, à la livraison de ces valeurs-là, ce monsieur n'était pas présent, clairement.
Merci beaucoup pour cette réaction, Grégory Joron du syndicat Unité SGP Police. Bruno Bonnel, député de La République En Marche.
Plusieurs choses à dire sur ces paroles très sensées. D'abord, c'est vrai que ce climat entretenu par certaines oppositions anti-flics est un climat insupportable. On a eu l'occasion d'en parler mille fois.
On va l'écouter dans un instant.
De systématiquement dire que ce sont des éborgneurs, que ce sont des barbares, par des autorités qui se présentent même aux élections présidentielles. Ça, c'est juste inadmissible. Après, sur les faits, monsieur a raison de dire que c'est une situation qui vient de la pression. Et moi, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle qu'on essaye de restaurer l'ordre dans ces quartiers. Et il faut saluer leur courage, parce que ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. Et quand on en est à dire, alors qu'il y a des années, on aurait été fiers de dire « mon papa ou ma maman, ils sont dans la police », qu'on est à dire « surtout ne le dites pas », parce que ça nous met tous en danger, là, on marche sur la tête. Et donc, il faut restaurer. Alors, on le fait au niveau législatif. On a pris des mesures. Encore une fois, on a voté des lois pour montrer l'aggravation des peines pour les policiers, pour essayer de les protéger. On a vu les débats que ça a créé à l'Assemblée nationale, le fameux article 24 dont parlait monsieur. Et je pense que ça, c'est la partie législative. Mmh. Après, il faut au maximum continuer à les soutenir pour leur dire votre combat, il est juste. Et on n'a pas vraiment beaucoup d'autres choses. Dernier point sur la justice, un petit point quand même. Plus 30% de budget sur la justice française depuis 2017. Ça, c'est une réalité. Plus 30%. C'est peut-être encore pas assez, mais on avance quand même par de plus en plus de moyens vers la justice. Puisque quand on écoute les juges, ils disent c'est vraiment un problème de moyens. On n'a pas le temps de gérer tous les dossiers.
Un mot sur l'augmentation du budget de la justice, peut-être Éric Diard, avant qu'on passe à Cachan.
C'est une bonne chose, mais je ne sais pas si c'est un rapport avec la réponse pénale. Moi, c'est globalement satisfaisant, mais est-ce que, parce qu'il y aura des moyens qu'il faut, ça va entraîner une plus grande sévérité dans les jugements, je peux émettre des doutes. Par contre, ce que j'entends, c'est que quand même, ces actes inqualifiables deviennent le lot commun des policiers. C'est ça que je suis surpris, ça devient le lot commun. C'est plus une exception. Alors, ce sont peut-être des actes d'intimidation. Pour autant, est-ce qu'il n'y aura pas un jour le passage à l'acte? Je suis plutôt inquiet.
Jean-Claude Dacier.
J'espère d'abord que ces types de menaces qu'on est en train de voir là à l'écran ne concernent pas tous les immeubles de nos cités et qu'on est là face à un exemple malheureux. J'espère néanmoins, Karim a raison, on ne peut pas laisser passer ça. Alors, est-ce qu'on aura les moyens de retrouver ces auteurs de ces versets sataniques? Bon, si j'ose dire, on verra bien.
On ne sait pas qui ils sont.
Il faut se méfier. Néanmoins, c'est pas acceptable. Donc, il faudrait mieux éviter que ça gagne, que ce soit dû probablement à la décision du président de la République et du ministre de l'Intérieur de livrer bataille, pour ne pas dire la guerre, aux trafiquants de drogue, ça me paraît incontestable. Mais quand on déclare la guerre, il faut savoir la mener et aller jusqu'au bout et se donner les moyens de la gagner. Parce que on a déjà le terrorisme et les imams qui racontent parfois, pas tous heureusement, n'importe quoi dans les mosquées. On a un problème dans les cités avec du mal-être évident et le problème des drogués ou des marchands de drogue qui en rajoutent. Ça fait beaucoup pour les services de police.
C'est la même chose. La drogue, sinon,
c'est probablement la même chose. Sauf qu'il y a du boulot.
Un petit mot sur le budget de la justice. Effectivement, on part de loin. Très mal classé à l'échelle européenne. 30%, on peut dire que c'est pas mal. Il y a quand même un petit bémol. C'est les infrastructures. Je pense que sur le nombre de places de prison et sur les centres d'éducation renforcée, moi j'y tiens beaucoup à ça, ces centres d'éducation renforcée, centres fermés, je le précise, pas des centres de vacances, comme il peut en exister, pour gérer la délinquance des mineurs, pour les remettre dans le droit chemin. Là, le compte n'y est pas. Là, je pense que sur ce quinquennat, on n'a pas suffisamment créé de places de prison, on n'a pas suffisamment créé de nouveaux centres d'éducation renforcée. Nous en avons 50 et on a 99 départements sur la métropole. Donc, là, vous auriez dû, je pense, cette majorité faire un effort, parce que si on a des magistrats, mais s'ils statuent sur des peines qui ne peuvent pas être exécutées parce que trop pleines dans les prisons, pas assez de centres d'éducation renforcée, on a un problème de fond, ce sont les infrastructures.
Le président de la République n'a pas tenu ses engagements. Il avait dit 15 000, on n'en a même pas 2 000.
3 000, vous êtes sûr? On est en commission d'enquête, justement, sur la politique pénitentiaire actuelle. On est à 2 000.
Bah,
on est
à 2 000. On est à 2
000
à 2027.
Hein.
Mais pour construire une prison, il faut du temps.
Il faut de quinquennat, c'est ça?
Il faut au moins de quinquennat.
Mais non, passer un accord avec le privé, ça ira beaucoup plus loin.
En fait, c'était prévu 15 000 pour ce quinquennat. C'était prévu, voilà.
Il y a la réalité.
Il y a les procédures. Les centres pour les jeunes, c'est très important. Et en plus, plus de prisons, c'est aussi, je veux dire, améliorer la vie aussi des détenus. Parce que c'est avoir des prisons neuves. C'est
travailler sur la réinsertion.
Ça aide à la réinsertion. Et c'est plus facile. Moi, j'ai vu des prisons neuves. C'est plus facile aussi pour les surveillants pénitentiaires de travailler dans de bonnes conditions.
J'aimerais juste qu'on écoute ce qui s'est passé au conseil municipal de Cachan. On l'évoquait tout à l'heure avec Grégory Geron, le syndicat policier, parce que c'est assez quand même frappant. Là, le débat portait sur le fait d'armer la police municipale. Écoutez ce qu'en a dit un élu de la France Insoumise et après la réaction d'autres conseillers municipaux. Écoutez cela.
Je croyais que le but de la police, c'était de protéger la population. c'était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer, parce que c'est ça la signification en bon français courant. Voilà, merci.
Tuer la population, monsieur ?
Oui, excusez-moi, j'ai pas très bien compris la fin de tuer la population. Si vous connaissez, peut nous expliquer. J'ai pas très bien compris.
Les policiers nationaux qui sont armés d'armes létales tuent la population, monsieur Lanoé. Après madame qui disait que les policiers sont racistes, les policiers nationaux armés avec des armes létales tuent la population, monsieur Lanoé.
Cette délibération.
Oui. Excusez-moi.
Non, en fait, s'il vous plaît, monsieur.
Non, mais c'est juste pour vous dire que je quitte le conseil municipal parce que je peux pas entendre des choses comme quoi la police armée tue des gens. C'est juste pas possible, quoi. Donc, comme en plus ce monsieur connaît ma profession, c'est juste vraiment pour, vous êtes ignoble. Et moi, je reste pas à côté de personnes comme vous. Voilà.
Allez, si, j'ai bien compris. Tuer la population, c'est scandaleux. Après, les policiers sont racistes, c'est scandaleux.
Voilà pour cette séquence mouvementée au conseil municipal de Cachan. Encore une fois, Bruno Bonnel, il y a une passivité de la part d'abord de la maire qui ne reprend pas ses propos.
On est juste dépassé par le problème. Attendez, à chaud.
On réagit quand même.
Oui, je suis d'accord. Les gens qui sont autour de cette table n'auraient probablement pas eu la même réaction. Mais ça, chacun sa personnalité et ça. Non, le phénomène qui est le plus grave, c'est que depuis le début de ce quinquennat, depuis que je suis député, j'entends dire par une fraction de l'opposition, toujours la même, les pires horreurs sur la police. Ça ne m'étonne pas qu'on en arrive à dire jusqu'à tuer la population, parce que on a déjà éborgné, on a arraché des mains, on crée volontairement des provocations. Alors, qui est des brebis galeuses dans la police ? Certainement. Et qui est des bavures ? Il n'y a pas de débat. Mais par contre, de là à les caricaturer, mettre dans le même bloc les gardiens de la paix en disant finalement que c'est une armée en guerre, il y a peut-être une nuance. La seule guerre que mène la police, c'est contre les délinquants.
Absolument. Éric
Gard. C'est très grave et c'est la deuxième partie de sa phrase qui est très grave. Ça veut dire, vous voulez armer les policiers, ce qui signifie que vous voulez tuer la population. Ah oui. Voilà ce qu'il dit. Vous les armez, voilà. Mais où on va ? Et c'est vrai que la maire aurait dû, à minima, recadrer cet élu. À un moment, lui dire, monsieur, je vous demande on ne peut pas dire ça, après il y aurait une explication entre eux, mais au moins lui dire, monsieur, on ne peut pas dire ça, mais armer la police égale tuer la population. Moi, je comprends ça à travers ces propos.
Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Les manifestations d'une énorme violence des Gilets jaunes et d'autres avant celle-là, les Black Blocs, ont laissé des traces. Et les problèmes que une partie de la population minoritaire a avec la police, ça remonte à loin. Mais les récents événements de ce quinquennat n'ont pas arrangé les choses. Et vous avez, je ne sais pas combien, vous avez un pourcentage non négligeable, en tout cas, hélas, de gens qui pensent exactement comme cet élu municipal, si j'ai bien compris.
Oui, du conseil municipal.
L'esprit peut-être un petit peu étroit, mais qui néanmoins dit des choses, je le crains et je le regrette profondément, et qui est partagé ou qui sont partagés par pas mal de Français.
Karim,
moi, je suis effaré de voir que dans le débat public, dans notre pays, de l'extrême droite à l'extrême gauche, on a une parole anti-républicaine totalement décomplexée.
Oui.
Totalement décomplexée. Ces gens-là ne sont pas républicains. Ils n'aiment pas la République. Ils ne veulent pas de République. Aller attaquer ce qui représente un des piliers, je dirais, une des fondations de la République, la police nationale, donc l'incarnation de la liberté. Aller venir en toute sécurité, c'est la première des libertés.
Le président Macron.
Donc, bien sûr, mais Jean-Pierre Chenemont le disait quand il était ministre de l'Intérieur et que j'étais son humble conseiller. Et j'aimais entendre le ministre de l'Intérieur dire ça, la première des libertés des sécurités, c'est aller venir en toute liberté. Or, aujourd'hui, si vous n'avez pas une police, une gendarmerie, des policiers municipaux armés, bien équipés, mais comment voulez-vous qu'il fasse face à la délinquance qui est de plus en plus violente dans cette société, donc où pour un rien les gens deviennent agresseurs. À un moment donné, il faut revenir sur la planète Terre. Donc là, c'est une idéologie qui est anti-républicaine, qui fait du mal donc à nos représentants, très symbolique, la police nationale, que nous devons soutenir. Cela a été dit par mon voisin, on ne parle pas des quelques brebis galeuses, mais bien sûr que celles-là, on les a condamnées même sur ce plateau. Mais l'immense majorité des fonctionnaires de police font leur travail dans des conditions difficiles. Il faut saluer ce travail, donc il faut les soutenir. Absolument. C'est notre devoir de citoyen à tous.
Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a écrit à cette maire socialiste un courrier que s'est procuré CNews pour lui demander de s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles ces paroles ont été prononcées. Éric Diard, vous voulez rajouter un dernier mot, rapidement.
Je pense que cet élu, il devrait faire un stage pas de citoyenneté, on devrait le mettre dans le maintien de l'ordre, gendarme mobile ou CRS, sur une manifestation avec des black blocs, et là, il comprendrait la situation. Oui. Je crois qu'il faudrait qu'il soit immergé et comprendre la situation.
Un stage de citoyenneté, c'est pas mal comme idée pour cet élu.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On s'intéressera au jugement concernant le jeune homme de 18 ans qui avait projeté à terre sa professeure à Combs-la-Ville dans un lycée professionnel vendredi dernier. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va s'intéresser au jugement concernant ce jeune homme de 18 ans qui avait agressé sa professeure dans un lycée professionnel vendredi dernier. On avait évidemment beaucoup évoqué cette scène où on le voit tenter de sortir de la salle de cours. La prof s'interpose. Je crois qu'il y a pas mal d'allers-retours entre l'extérieur de la salle et l'intérieur de la salle. Et puis finalement, il veut sortir. La prof s'interpose, se met entre la porte et le jeune homme. Il finit par ouvrir la porte et très violemment projeter la professeure à 3 mètres de là, avec, encore une fois, deux élèves qui filmaient, qui, eux, qui sont mineurs, qui seront présentés prochainement à un juge pour enfants. On va d'abord s'intéresser à la peine qui a été prononcée pour ce jeune homme. 5 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans. Noémie Schulz est avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir, Noémie. Cette peine prononcée, elle est identique aux réquisitions ou pas ?
Elle est légèrement inférieure aux réquisitions. La procureure avait demandé une peine de 7 mois de prison avec sursis probatoire pour une durée de 2 ans, qui s'accompagnait d'une série d'obligations. Parce qu'il faut comprendre avec cette peine, c'est que si ce jeune homme ne respecte pas toute une série d'obligations que je vais vous donner, eh bien, il risque de partir en prison et de purger cette peine de 5 mois de prison. Alors, qu'est-ce qu'il doit respecter comme obligation ? Eh bien, effectuer 140 heures de travaux d'intérêt général, indemniser la victime avec laquelle il a interdiction d'entrer en contact, obligation de suivre à ses frais un stage de citoyenneté. Il doit se former, c'est-à-dire concrètement passer son bac. Il doit suivre des soins à la fois psychologiques, puisque pour gérer son impulsivité, lui a dit la présidente, et puis aussi pour gérer une forme d'addiction au cannabis, puisqu'il a reconnu qu'il fumait régulièrement. Et la présidente, elle a pris le temps de lui expliquer, elle lui a dit cette condamnation, cette peine, c'est une peine au-dessus de votre tête qui peut se transformer en prison si vous commettez une autre infraction quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que si dans quelques mois il est arrêté pour justement consommation de stupéfiants, eh bien il pourra partir en prison, ou s'il ne respecte pas une de ses obligations.
Noémie, quelle a été l'attitude de ce jeune de 18 ans pendant l'audience ? Comment était-il ?
Alors, il n'était pas très bavard, pas très loquace, ce jeune homme qui, on l'a vu avec ses cheveux bouclés, il a tout juste 18 ans, il fait assez jeune d'ailleurs en apparence. Il a eu du mal à expliquer son geste, la violence de ce comportement. Il y a eu quelques larmes à un moment quand la présidente lui dit « Mais quel âge a votre mère ?» Alors, il dit « Elle a 40 ans. Et votre grand-mère ?» Alors, il hésite et puis il dit « Elle est vieille, elle a plus de 60 ans. » Et là, la présidente lui a dit « Votre enseignante, elle a 66 ans. Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un s'en prenait à votre grand-mère comme ce que vous avez fait avec votre enseignante ?» Alors là, il a craqué en pleurant. Il a dit qu'il reconnaissait qu'il avait eu un comportement honteux, que c'était sa faute de A à Z, mais il n'a pas été capable, par exemple, de présenter ses excuses à l'enseignante. Alors son avocat a expliqué que c'est parce qu'il était bouleversé par tout ce qui s'était passé, par le déferlement aussi de haine lié à la diffusion de ces images, à une forme de harcèlement dont a été victime sa famille. Mais c'est vrai que ça a été souligné par l'avocat de l'enseignante. Elle n'était pas là, encore très meurtrie par ce qui s'est passé et très inquiète aussi. Elle ne voulait pas enfoncer son élève et elle était soulagée, nous a dit son avocat, d'apprendre qu'il n'était pas envoyé en prison, mais qu'il avait pris conscience tout de même de la gravité de ses actes.
Merci pour toutes ces précisions, Noémie Schultz. Vous avez assisté évidemment à cette audience au tribunal judiciaire de Melun. Karim Zeribi, c'est une peine qui est assez complète, avec 5 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans, des heures de travaux d'intérêt général, stage de citoyenneté en 10 ans, et puis aussi réparation. C'est-à-dire qu'il va devoir indemniser sa professeure et puis se faire soigner lui aussi.
Tout à fait, Laurence. On accuse souvent la justice de ne pas statuer en temps réel et de ne pas avoir une peine à la hauteur des actes de délinquance ou de délits qui sont commis. Or là, je trouve que, un, c'était une comparution directe, donc ça a été assez rapide. Deux, il y a une graduation de la peine qui est plutôt intéressante, avec stage de citoyenneté, indemnisation, tout à l'heure on avait oublié cet épisode, stage d'intérêt général, et puis ce sursis de 5 mois, donc avec pendant 2 ans un comportement qui sera observé pour ce jeune de 18 ans, donc jusqu'à ses 20 ans, obligation ensuite d'aller passer le bac, de suivre une forme de cure de désintoxication, je ne sais pas quel est son niveau d'addiction, mais en tout cas il doit soigner. Je trouve que la palette est assez large, le spectre est plutôt bien couvert. Maintenant, ce qui va demeurer, c'est l'exécution de toutes ces peines. Il va falloir quand même que ce travail d'intérêt général, ces 140 heures, soit effectué, donc ce stage de citoyenneté également, et qu'il soit suivi comme il se doit. Si c'est le cas, très franchement, je pense que c'est à la hauteur de ce comportement inacceptable dont ce jeune a été l'auteur.
Et donc, il a peut-être pris conscience.
Voilà. Et moi,
à la faveur d'une garde à vue prolongée,
parce que la pédagogie dont Noémie Schultz nous disait pendant le rapport avec la magistrate, là aussi, je trouve que c'est important de faire preuve de pédagogie. Et si c'était votre grand-mère qui avait été traitée comme cela? Et là, effectivement, ils font en larmes parce qu'ils s'imaginent effectivement sa grand-mère violentée. Et quand on touche à un être cher, éventuellement, je pense qu'on arrive à recontextualiser. Donc, je trouve que le travail de pédagogie j'y ai fait, la sanction est tombée. En temps réel, c'est plutôt pas mal ce qui se passe. Ça pouvait se passer tout
absolument
le temps comme ça.
Éric Diard, des Républicains.
Si ça pouvait se passer tout le temps comme ça, et malheureusement, c'est plus l'exception que le principe. Mais un jugement rapide, en effet, ça c'est une très bonne chose. Une juge qui a fait quand même vraiment le parallèle avec quelqu'un de sa famille, là il a un peu craqué, c'est-à-dire il s'est fissuré. Alors le bémol quand même, c'est qu'il ne s'est pas excusé. Alors peut-être qu'il n'arrive pas à formaliser, mais j'espère que justement, suite à ce stage de citoyenneté, suite à ces 140 heures, quand même, c'est pas rien, de travail d'intérêt général.
Ça veut dire quoi, un travail d'intérêt général? C'est-à-dire qu'on repeint, on désherbe.
Il va faire des espaces verts, voilà. Mais il faut qu'il soit effectué. Je veux dire, cette personne, si elle est soignée pour son addictologie, si elle fait son 140 heures et qu'elle fait son stage, je pense qu'elle peut revenir dans la société. Mais si vraiment on ne le fait pas, on ne lui rendra vraiment pas service.
Bruno Bonnel, à la fois sur l'attitude de ce jeune homme et la sanction qui lui a été imposée.
Pas beaucoup d'autres commentaires sur la sanction. Je pense que là, pour une fois, effectivement, il y a eu une célérité. J'y dis pour une fois parce qu'on le voit trop rarement et c'est bien d'avoir montré. Il y a la question des jeunes qui ont filmé, qui est une vraie question.
Bien sûr.
Parce que ça
s'appelle
veut dire
le happy slapping, c'est-à-dire on diffuse quelque chose, on le met sur les réseaux sociaux. Et c'est puni de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende.
Absolument,
hein,
donc il ne faut pas l'oublier, même s'ils sont mineurs. Là, je pense qu'ils prendront probablement beaucoup de travaux d'intérêt généraux et ça sera très bien. Par contre, on voit bien les ravages de la drogue, là. Quand je dis ça, ce n'est pas que je veux l'excuser, bien au contraire.
Oui.
Mais on voit bien que cette, quand on nous dit non, mais là, drogue, c'est sympa, le combat contre la drogue, vous comprenez, soyez cool, quoi, les mecs, hein, c'est un joint, ça n'a jamais fait de mal à personne. Il avoue de son propre chef qu'il fume régulièrement, il avoue, par rapport à sa honte qu'il exprime, même maladroitement, il avoue que, bon, il n'était pas tout à fait dans son état normal, et on voit bien que là, il y a d'autres dérives qui se passent. Donc moi, je crois que dans les peines qui sont, enfin, dans les conditions de sa peine, cette idée de dire, attention, vous risquez la prison, Si vous dérivez également sur la drogue vis-à-vis des messages qui sont là, ça me semble important. Alors, le dernier point, c'est que je trouve que ce professeur est touchante quand elle dit « Je suis contente, malgré tout ce qu'il a fait, je suis contente qu'il n'aille pas en prison et je suis contente que ça soit une leçon plus qu'autre chose. »
Qu'il l'ait réalisé, peut-être.
Et chapeau quand même au professeur qui dit ça. Quoi.
Bien sûr, leur travail n'est pas facile. Jean-Claude Dacier,
jugement. Oui, j'espère, je suis d'accord avec tout ça. J'espère qu'il saura saisir sa chance.
Voilà.
C'est peut-être sa dernière chance. Il a eu la chance de tomber sur une juge ou un juge, je ne sais plus très bien, qui présidait
une
juge intelligente, qui a, je suis de cet avis avec vous, bâti un jugement qui est un jugement raisonnable. Il s'est mal comporté avec sa professeure, il méritait une sanction sévère. C'est pas rien, hein, 2 ans de probation. C'est-à-dire, s'il refait une bêtise dans les 2 ans qui viennent, il part en prison le soir même.
Et à vie, c'est sur son
casier. Alors, donc, faut souhaiter que ce gamin va comprendre qu'il a la chance de pouvoir revenir et redevenir un citoyen comme les autres. Je ferai pas de pronostic, j'espère de tout cœur qu'il va faire les travaux d'intérêt généraux, même si c'est toujours difficile de mettre ça en œuvre, d'après les maires.
Juste une petite précision, oui. Jean-Michel Blanquer a réagi, il dit que la rescolarisation de ce jeune de 18 ans se fera dans un établissement strict sur le plan disciplinaire. Alors, je ne sais pas de quel établissement il parle. Je ne sais pas ce que c'est, les lycées disciplinaires.
Il y en a qui sont stricts et d'autres pas stricts.
Nous serons extrêmement fermes et stricts, et cette affaire en est une démonstration. Karim Zerebi.
Jean-Michel Blanquer, moi j'aimerais qu'au-delà de ce cas, qui est un cas qui semble isolé, mais qui n'en est pas un, il puisse se pencher sur la possibilité qui doit être donnée aux enseignants de restaurer l'autorité et de ne pas être obligé de faire calmer le chahut et de faire face aux perturbateurs pendant une vingtaine de minutes dans un cours qui en dure 55. Parce que c'est un vrai problème, à la fois pour l'ensemble des autres élèves qui sont attentifs, respectueux, polis, pour l'enseignant qui n'est pas un éducateur au sens policier du terme, et qui est là pour enseigner, transmettre des savoirs à des enfants de tous les horizons. Et là, je trouve que il y a peut-être un vrai sujet pour Jean-Michel Blanquer. Que fait-on dans un cas pareil? Est-ce qu'on attend effectivement qu'il y ait lié à agression pour statuer derrière avec la justice, ou est-ce qu'on a un moyen, donc en temps réel, alors pour le coup, avec des agents de la sécurité privée qui peuvent être peut-être dans les écoles, des surveillants, en fait, il y a un dispositif aujourd'hui, on a affaire à des gaillards qui font deux têtes de plus que les enseignants, qui sont parfois violents, sous couvert de drogue ou pas, parce qu'on n'a pas besoin de drogue parfois pour être violent.
Valérie Pécresse propose des espèces de structures dédiées où il y aurait très peu d'enfants, ce qu'elle appelle les poly-exclus, c'est qu'on se repasse d'un collège ou d'un lycée à un autre, vous savez, les cas difficiles, on se repasse. En réalité, elle propose de créer vraiment des centres dédiés. On va peut-être écouter Valérie Pécresse et puis vous me direz ce que vous pensez de sa proposition. Écoutons-la.
Aujourd'hui, le système éducation nationale, on le réinscrit dans un autre établissement. C'est pas possible. Donc, moi, je créerais des établissements dédiés, des structures de réinsertion scolaire. Tous les élèves les plus perturbateurs, exclus définitivement, ne seront pas réinscrits dans un établissement scolaire normal, mais seront...
Combien par département de ces établissements?
Un établissement par département, et ces jeunes seront tenus...
Donc plus d'une centaine.
Seront tenus d'aller dans cet établissement de réinsertion scolaire, qui sera une petite structure.
Vous recrutez combien de profs, d'encadrants?
Ce sera une petite structure. Heureusement, nous n'avons pas des élèves poly-exclus... pas en masse dans tous les départements, mais ce sera une petite structure qui sera ad hoc et qui ne permettra de ne plus avoir ce fléau des proviseurs ou des principaux, les poly-exclus qui sont réinscrits et qui viennent totalement perturber la vie des établissements.
Voilà, donc une proposition, une centaine de centres de réinsertion scolaire créés dans notre pays.
Dans d'autres cas que celui qui nous occupe tout à l'heure aujourd'hui. Monsieur Blanquer lui a un peu répondu, je sais pas s'il a anticipé ou s'il lui a répondu après l'avoir écouté chez vous, lorsqu'il parle de remettre ce jeune homme dans un établissement, comment a-t-il dit?
Mais non, il dit un établissement spécial.
La discipline stricte.
Mais ça veut dire quoi un établissement spécial?
Bon, je sais même pas si ça existe. Espérons que, mais en tout cas, on en aurait besoin. On en aurait besoin parce que Karim a raison. Il y a des choses extrêmes comme celle de qui nous occupe aujourd'hui. Mais il y a aussi une espèce de chahut.
Bien sûr.
Je dirais pas permanent, mais un chahut où le gars de la classe, le prof, n'arrive pas, parce qu'au fond, les mômes n'ont pas très envie d'apprendre, ils s'amusent,
Là, il mettait la musique à fond.
Alors là, il mettait de la musique et il poussait des cris. Bon, c'est à ça qu'il faudrait que le ministre s'attaque. Je reconnais que c'est pas simple.
Regarde, un dernier mot.
La question se pose, est-ce qu'il faut mettre tous ensemble ces mêmes élèves? C'est la question. Alors dans ce cas, il va falloir vraiment une structure.
Il faut du personnel.
Faut-il les disséminer avec quand même, moi je préférerais de l'autorité dans tous les établissements, plutôt que de les mettre tous ensemble dans un même établissement.
Mais moi je pense qu'il y a un véritable enjeu de restauration de l'autorité dans tous nos établissements.
C'est l'intégration qui est au cœur de ça.
Mais c'est l'éducation, j'allais dire, de base. Donc le respect de l'enseignant, le respect du magistère. Et le béaba, comme dit Jean-Claude. Et c'est vrai que c'est à cette question, qui est une vraie question nationale, le ministre de l'Éducation nationale ne répond pas clairement. Moi je vous le dis, je pense qu'il faut comptablement plus d'adultes dans le dans le rapport à ces adolescents qui se permettent tout et n'importe quoi. Vous avez cette enseignante qui a 66 ans. On sent qu'elle a sa profession chevillée au corps. Donc c'est viscéral pour elle. Elle est là pour enseigner. Elle se fait agresser et elle espère que le gamin va avoir une autre chance et autres. Donc on a des gens qui ont ça en vocation. Il faut leur permettre d'enseigner dans les meilleures conditions. Or aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est pour ça que je disais, on voit que la sécurité privée se développe partout dans le pays. Pourquoi ne pas imaginer des coordinations, des associations? Mais il ne faut pas qu'il y ait de sujets tabous, Laurence. À un moment donné, on a des
enseignants... Vous connaissez l'éducation nationale, mon cher Carré.
Oui, mais justement, l'éducation nationale, à un moment donné, doit comprendre que c'est rendre service aux enseignants. Et quand vous avez un perturbateur dans une classe de 30, il vous pourrit la classe. C'est pas tous les jeunes qui sont comme ça.
Alors, Éric Dard et puis Bruno Bonnel, rapidement.
Enfin, maintenant, c'est un phénomène aussi nouveau. Maintenant, dans les urgences, il y a des personnes de sécurité privée et personnes en plein, et c'est indispensable.
Bruno Bonnel,
ça peut faire l'objet effectivement d'un débat beaucoup plus intéressant de ce qu'on a pour un programme futur de quinquennat. Deux, n'oubliez pas les parents. Hein, n'oublions quand même pas les parents dans ce mix.
Responsabilité des parents.
Et la responsabilité des parents qui, dès que les enfants
ça
veut dire que.
On les responsabilise, on les pénalise.
N'oublions pas les parents. Ça veut dire que dans cette éducation à l'autorité, il faudra inclure les parents d'une manière ou d'une autre.
Mais il a 18 ans. À un moment donné,
Quand on a des gamins de 10 ans,
je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il faut prendre en compte le fait qu'il y a un responsable quand tu as 15, 16, 17 ans, 18 ans, c'est toi. Il faut qu'on arrête à un moment de toujours se dédouaner derrière les parents. Et souvent, il y a des familles monoparentales où la mère, elle est au four au moulin, elle fait tout ce qu'elle peut. Tu vas pas la sanctionner à elle.
Et sortir les œillères de l'éducation nationale. L'éducation nationale a des œillères. C'est-à-dire, on est toujours dans le phénomène pas de vague. Je reviens l'affaire Samuel Paty. Quand il y a eu Samuel Paty, moi j'avais interpellé le ministre qui me disait il y a eu 400 infractions à l'hommage Samuel Paty. Je lui ai dit c'est faux, il y a même eu des établissements où il n'y a pas eu d'hommage pour qu'il n'y ait pas de vague. De 15 jours après, il a travaillé, je le reconnais. Il est revenu avec un chiffre de 870 infractions. C'était pas ça, mais c'était plus proche de la réalité. Il faut que l'éducation nationale enlève ses œillères.
Il n'y a pas d'éducation sans autorité.
Absolument. Et peut-être que Jean-Michel Blanquer faisait allusion, quand il parlait d'un établissement disciplinaire, à ce qu'on appelle les établissements de placement éducatif, qui ne sont pas tout à fait les centres d'éducation fermés, qui sont encore l'étape avant. Donc c'est peut-être à ça qu'il faisait allusion pour la scolarisation de ce jeune de 18 ans. On suivra cette affaire. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
Et on se retrouve sur Europe 1 avec nos débatteurs qui sont des débattrices en grande partie ce soir. Chouette, Françoise Laborde, journaliste, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Jeannette Bougrave, essayiste, bonsoir Jeannette. Guylaine Ottenheimer, bonsoir, rédactrice en chef de Challenge. Ouais. Et Amine El-Khatmi.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir Amine, président du Printemps Républicain, auteur du livre Printemps Républicain aussi. Bienvenue à tous les quatre dans Punchline. L'actualité, on va peut-être commencer par cette fermeture d'une mosquée à Alon. Gérald Darmanin a demandé au préfet de prononcer la fermeture administrative de cette mosquée qui accueille 300 fidèles et une école coranique de 110 enfants. Le problème, ce sont des prêches qui ont légitimé le recours au djihad armé, la mort en martyr, les actes de terrorisme ou l'instauration de la charia. On va évidemment débattre de cette fermeture. Il y a beaucoup d'autres lieux qui sont aussi dans le collimateur de la justice et des renseignements. Mais on va voir avec Victor Chabert. Bonsoir Victor. Le nombre de ces fermetures administratives de lieux de culte, c'était l'une des priorités du président de la République de lutter contre l'islam radical, c'est cela ?
Oui Laurence, souvenez-vous, le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron prononçait ces mots aux Mureaux.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ses lois propres sont supérieures à celle de la République. Force est de constater qu'il y a un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République.
Un an, presque jour pour jour après ce discours, Gérald Darmanin a fait un bilan de l'action engagée. Depuis le début du quinquennat, 24 000 contrôles ont été menés sur des lieux fréquentés par des fondamentalistes, ayant conduit à 650 fermetures. Ces 12 derniers mois, 89 lieux de culte soupçonnés d'être radicaux ont été contrôlés, un tiers ont été fermés. Le ministre a déclaré que d'autres procédures allaient être enclenchées pour enfermer 6 supplémentaires en Meurthe-et-Moselle, en Côte d'Or, dans le Rhône, dans le Gard et dans la Sarthe. C'est dans ce département que se trouve la mosquée concernée par la demande de fermeture d'aujourd'hui. Cette décision est possible depuis la loi SILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, votée en 2017. C'est une fermeture administrative pour 6 mois. La mosquée pourra rouvrir s'il y a des changements à la direction. Cela a été le cas de celle de Pantin, fermée quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty. Les fidèles ont pu y retourner en avril après le remplacement du recteur et des imams.
Merci beaucoup Victor Chabert. Guylaine Ottenheimer, le gouvernement veut vraiment montrer qu'il agit contre l'islam radical de façon concrète.
Oui, les chiffres sont assez impressionnants. Maintenant, il ne faut pas que le message soit compris comme quoi toutes les mosquées doivent fermer. J'entendais des gens protester en disant « Oui, mais après, elles rouvrent et les gens reviennent. » Ah, oui, mais elles rouvrent, mais pas avec les mêmes personnes, pas avec le même discours. Donc, ce n'est pas du tout pas question d'interdire les mosquées en France. Mais on voit en grattant un peu, et les résultats sont là pour le montrer, qu'il y avait quand même un certain laxisme à l'égard de certains imams. Et il y a d'autres actions qui sont menées, comme le renvoi de certains imams, le refus de redonner des papiers, de signer des autorisations, etc. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait, mais il faut aussi faire attention à ne pas stigmatiser, parce qu'il y a récemment, il y a une mosquée près de Strasbourg qui agit dans un quartier très, très pauvre et très délaissé et qui n'a rien à se reprocher et qui a eu une sorte de perquisition avec grand bruit, et à l'arrivée il n'y avait rien, mais ça stigmatise un peu. Il faut quand même que ce soit fait avec sérieux et doigté.
Françoise Laborde, il y a aussi la question des enfants, 110 enfants scolarisés dans cette école, avec, encore une fois, si on leur parle de la charia et de la mort en martyr, ça pose question.
Il est évident que... alors déjà, c'est très bien, en effet, qu'on puisse fermer avec les mosquées qui sont radicalisées, où on appelle, en effet, au djihad et à la lutte armée. Et on pourrait imaginer que, d'ailleurs, ce ne soit pas quelque chose qu'on considère comme extraordinaire, mais comme normal, qu'après tout, il s'agit simplement d'appliquer les lois de la République. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, il y avait une école coranique avec des enfants qui étaient endoctrinés de façon préoccupante. Et là, définitivement, ça s'impose. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est qu'on est quand même dans un territoire rural. On n'est pas dans des banlieues ouvrières où le tissu industriel c'est complètement. On est au pays de la rillette, pardon de le dire, mais donc on est quand même dans la France rurale. Et là, on voit qu'il y a une radicalité qui existe. Comme il était arrivé d'ailleurs à Lunel, hein, qui est aussi un petit village du sud-ouest, oui. A priori, enfin un petit village, une petite ville. Donc c'est aussi ça qui est intéressant et qui doit interpeller. D'autant que le maire ou la maire, je sais plus, a indiqué qu'il n'était pas au courant. Je crois que c'est un maire qui n'était pas au courant de l'existence de cette mosquée. Alors ça interpelle quand même, parce qu'on se dit que si c'est une mosquée dans un... Je crois que Alonne, c'est 11 000 habitants. Hein. Dans une petite ville de 11 000 habitants, ne pas avoir connaissance d'une mosquée qui rassemble 300 fidèles, plus une école coranique où il y a une centaine d'enfants, là, manifestement, il y a un problème d'information de l'autorité du maire.
Jeannette Bougrabe.
Ça intervient dans un contexte particulier. C'est un an depuis l'assassinat de Samuel Paty, l'exécution de Samuel Paty. Donc ça montre que la pieuvre, en réalité, radicale et islamiste, continue de travailler en tout cas des pans de la société française, et que c'est un geste qui est important, qui est un geste fort de reconquête républicaine, et ça, je pense que c'est important. Jamais, en réalité, quand on est musulman, on s'associera à des gens qui appellent au djihad ou qui sont homophobes ou qui sont... Voilà, je crois que les gens qui ont une foi sincère, jamais ne viendraient à se dire qu'on risque de faire de l'amalgame, voilà. Moi, je pense que c'est justement en dénonçant ceux qui font ce genre de dérive, et surtout quand on endoctrine des gamins, et c'est eux, parce qu'il ne faut pas oublier que l'assassinat de Samuel Paty, c'est un gosse, en réalité, qui exécute. C'est pas quelqu'un de très âgé. Donc, on voit bien que ce discours-là est d'autant plus dangereux qu'il touche le jeune public. Voilà.
Amine El Khatmi, du Printemps républicain, sur cette fermeture de mosquée.
Ben, elles sont bienvenues. Les choses sont assez simples. Soit les prêches sont conformes à ce qu'on peut attendre dans un pays comme le nôtre, et il n'y a pas de souci, soit les prêches ne sont pas conformes, et alors il faut non seulement fermer les mosquées, mais il faut expulser les imams s'ils sont étrangers.
Et ça, c'est compliqué. Hein.
Oui, bien sûr, mais rien n'est simple, donc il faut s'en donner les moyens, la volonté. Mais si vous fermez une mosquée et que le même imam va trois semaines plus tard dans une autre mosquée raconter les mêmes horreurs, c'est pas possible. Il y a la question de la protection des enfants, et Françoise Laborde a eu raison. On se souvient des prêches de l'imam de Brest qui expliquait à des enfants qui écoutaient de la musique transformée en porc ou en singe. Bon, ben là, c'est des enfants qui sont en danger, parce que un gamin de 8 ans, de 10 ans qui écoute ça, quel adulte sera-t-il? Quel rapport à la femme aura-t-il? Quel respect des principes aura-t-il? Et donc voilà, ça me paraît important. Et dernier point, ce que disait Françoise aussi sur le fait qu'on est plus concentré sur ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire des territoires très urbains. Tiens, moi, j'étais à Lunel, vous avez cité Lunel, j'étais à Lunel il y a 10 jours. Il y a 8 mosquées à Lunel. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la proportion par rapport au nombre d'habitants. Il y a 8 lieux de culte musulmans à Lunel. Donc on voit que, y compris dans des territoires qu'on pensait un peu épargnés, ils ne le sont plus aujourd'hui.
Il me semble que Lunel était aussi la ville qui a envoyé
de départ,
le plus de djihadistes dans la zone syro-irakienne.
C'est qu'en fait, la dépendance des pays d'origine est aussi très forte. C'est-à-dire que les migrants marocains veulent leur mosquée. Là, on voit bien avec l'Algérie, c'est que l'influence des pays d'origine est très importante. Et donc, et ça montre bien la question de l'intégration en France est en panne, parce qu'en réalité, on l'a vu avec la communauté turque, ils gardent un lien très fort, et on l'a vu que les écoles, notamment coraniques, ou les mosquées qui se développent, sont notamment financées par la Turquie. Voilà. Et donc ça pose un problème de fonctionnement de manière générale. Mais je voulais juste revenir, parce que du coup, je repensais à ce que vous disiez, mais quand Gérald Darmanin rappelle à l'ordre l'évêque sur la question du secret de la confession et qu'il n'était pas question que le secret de la confession prime sur le droit de la protection des enfants, je ne crois pas que les catholiques ont dit « mais vous allez nous stigmatiser ». Voilà. Je pense que les lois de la République s'appliquent...
Je disais ça juste à propos de la vérification qui a été faite dans cette mosquée de Strasbourg, qui apparemment s'est pas très bien passé, et à l'arrivée
il y a
des problèmes à Strasbourg, et vous le savez, il y a eu un attentat, il y a eu des gens qui ont été tués,
mais donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les choses soient faites de manière
comme toujours, voilà, ils essayent de faire comme toujours,
apparemment, hein. Quelquefois ça peut
déraper,
voilà, mais il faut pas que ça dérape, c'est tout. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, est très important, c'est sur les liens avec les pays d'origine, parce que c'est vrai que l'intégration ne marche que si il y a une certaine rupture avec le pays d'origine, il reste trop de liens. Alors maintenant, c'est compliqué, parce qu'avec les antennes satellites, les réseaux sociaux, eh ben voilà,
l'information vient commun, des pays. Jeannette, un dernier mot ?
Non, mais je disais que c'était... la manière de concevoir la religion, c'est vrai qu'il y avait ce sondage qui était assez effrayant sur les moins de 25 ans. Je crois que c'était 75% des moins de 25 ans qui étaient interrogés, qui plaçaient la loi religieuse avant les lois de la République. Et ça montre bien que les jeunes, et on voit bien pourquoi ils s'intéressent, parce qu'ils sont plus malléables. Et donc ça prouve bien qu'on doit faire un effort, et l'éducation nationale doit en particulier y contribuer pour permettre en tout cas à ces jeunes d'avoir une espèce de distance et d'esprit critique par rapport à ce que d'autres peuvent leur renseigner.
On fait une petite pause, on se retrouve tous les quatre dans Punchline. On évoquera les policiers, les menaces qui pèsent contre les policiers. Des tags anti-policiers ont été retrouvés dans une cité de l'Essonne. On verra qu'ils vont au travail avec la boule au ventre tous les jours. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve avec nos débatteurs. Nous sommes avec Aminel Katmi, Guylaine Ottenheimer, Jeannette Beaugrabe et Françoise Laborde. On va évoquer ces menaces contre les policiers, des inscriptions retrouvées dans le hall d'un immeuble dans l'Essonne, avec des noms de policiers, des insultes évidemment, des menaces de mort, les plaques d'immatriculation des policiers, le nom de leur campagne. Ils ont évidemment décidé de porter plainte à Aminel Katmi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les policiers sont suivis. Ils sont suivis à partir de leur lieu de travail jusqu'à leur lieu de vie personnelle. Leurs familles sont suivies. Ils ont peur non seulement pour eux, parce que c'est un métier évidemment risqué, mais aussi pour leurs proches. On est arrivé quand même à un inversement total des rôles.
Oui, mais parce que les policiers, évidemment, ils ont en tête... les menaces, ils ont en tête les tweets où maintenant vous avez des tweets où on balance leur nom comme ça et leur visage à découvert. Ils ont des boîtes aux lettres qui sont taguées, les portes de chez eux. Et puis tous ont en mémoire Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider qui sont égorgés sous les yeux de leur gamin de 3 ans par un terroriste islamiste. Et donc ils se disent, dans les Yvelines absolument, donc ils se disent, mais si c'est arrivé à nos collègues, ça peut tous et toutes nous arriver. Et donc, maintenant, non seulement le boulot est difficile quand on est dans le boulot, quand on a l'uniforme, quand on est en intervention, quand on est... Mais le boulot continue après les heures de travail parce qu'on est toujours susceptible de devoir être interpellé. Et donc, c'est aussi pour ça que vous avez de plus en plus de policiers qui vivent assez loin du lieu d'exercice du métier. Donc, des gens qui travaillent en 93 et qui vont vivre au fin fond des Yvelines ou même au-delà en se disant... Bah, au moins, avec un peu de chance, je ne croiserai pas les gens auxquels j'ai affaire, que je mets en garde à vue, auxquels je passe les menottes dans la journée.
Françoise Laborde. Ouais, Françoise Laborde.
Oui, ce qui est dans cette affaire, il y a deux choses, semble-t-il. Il y a d'abord, en effet, bon, ces informations divulguées par vraisemblablement des petits dealers, parce que les policiers s'attaquent
à des... C'est après des opérations anti-sup.
Et la question serait de savoir quels sont les donneurs d'ordre, parce que c'est pas simplement ces graffitis, il y a tout un système derrière. Mais j'allais dire, ce qui est plus préoccupant, c'est qu'il y a cette idée petit à petit qui est venue à travers certains mouvements indigénistes, d'extrême gauche, que au fond, on pouvait cracher à la figure des policiers et que c'était légitime. Vous savez, il y a le fameux slogan américain « ACAB, all the cops are bastards », pardon, ouais. tous les policiers, tous les flics sont des salauds, pour dire les choses simplement, qui est repris dans toutes les manifestations, etc. Et moi, ce qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est qu'on a vu des manifestations avec des personnalités du showbiz, de participer à des manifestations où on mettait directement en cause la police. Rappelez-vous cette jeune femme qui invective un policier en lui disant « tu n'as pas honte, traître à ta race ».
Un policier noir,
absolument. Et le pauvre garçon qui était absolument stupéfait, tétanisé par la violence de l'insulte. Donc, il y a cette idée qu'il peut être légitime d'insulter les policiers. Et ça va quand même bien au-delà, en effet, des petits voyous. Et je ne sais pas comment on fait pour inverser ce mouvement, parce que j'allais dire le respect de l'uniforme de la police. Alors bien sûr, il y a des bavures, il y a des mecs il y a des choses horribles qui peuvent se passer et qu'il faut sanctionner. Je dis pas que tous les policiers sont des gens formidables. Il y a eu des choses qui se sont pas bien passées. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même aussi les remparts du jeu démocratique et de la République. Donc c'est un peu préoccupant, oui.
Janine Bougram.
On parlait en aparté, mais ce qui est plus général, ce qui travaille notre société française, c'est l'absence du respect de l'autorité. Moi, ce qui m'a marqué aussi cette semaine, c'était cette enseignante qui se fait frapper par un élève. C'est-à-dire qu'un enseignant autrefois était respecté par ses élèves. Là, vous avez des gosses qui filment, qui ricanent, et la prof est expulsée. Enfin, elle reçoit un coup et elle est projetée à terre. Et donc, quand vous voyez des enseignants, on peut pas dire que là, il y a des problèmes. Enfin, je sais pas, de questions, de répression, du banditisme, ils sont là. Elle est là pour enseigner, pour leur transmettre des choses, pour leur permettre de s'élever. Et ben même ça, c'est pas respecté. Donc comment voulez-vous éventuellement que des policiers qui sont là pour rétablir de l'ordre, on puisse... Donc cette société va mal. Et de dire que c'est... Voilà, les enseignants se font frapper, les policiers se font assassiner, des enseignants se font aussi également assassiner Samuel Paty. Donc vous voyez, c'est pas uniquement les policiers, c'est la société dans son entier qui est mise à mal.
Guylaine Ottenheimer.
J'espère que c'est pas la société dans son entier, sinon on est très mal barré. Vous parliez de la culture anti-flic, il faut voir ce qu'il y a dans certaines chansons de rappeurs. Enfin, c'est d'une violence inouïe à l'égard des policiers. Et je suis d'accord, il y a eu un laisser-faire, les pauvres sur les banlieues, laissons-les jouer. Bon, voilà. Et ça, c'était une mauvaise direction. Maintenant, je pense que c'est pas dans toute la société française. Je pense simplement qu'on a une immigration qu'on a laissée s'agréger dans certains quartiers, dans des ghettos, dont on n'a jamais eu de bonne politique et on n'a pas du tout assez investi dans l'éducation. Je vois par exemple en Allemagne, les 2 millions de Syriens qui sont arrivés, ben, au bout d'un an, ils parlent allemand et ils ont un début de métier. Que ça peut être maçon, etc.
Moins d'un million.
Un million. Ils ont tous eu une formation et au bout d'un an, ils parlent français. On n'a jamais...
Allemand. Vaut mieux. Ils peuvent parler français, mais...
Non, et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas mis assez sur une éducation prioritaire à direction de ces quartiers.
C'est aussi des choix des familles. Moi,
de se regrouper.
Non, pas de se regrouper aussi, mais moi, j'aide un certain nombre de jeunes, et ils me disent, mais à la maison, on ne parlait qu'arabe. Donc c'est aussi un choix des familles parce qu'il y a de la perspective du retour. Voilà. En Syrie, en Allemagne, vous n'aviez pas vraiment...
Parce que certaines fois, certaines, en tout cas dans une certaine période, on n'a jamais pris... Quand il y a eu le regroupement familial, personne ne s'est préoccupé que les femmes venaient du fin fond du Maghreb et qu'elles ne parlaient pas français.
Ça, je suis tout à fait d'accord.
Oui, mais c'est comme ça qu'on transmet les choses aussi.
Aujourd'hui, on est à la deuxième ou troisième génération parce qu'en réalité, il ne faut pas penser que c'est les primo-arrivants qui posent des difficultés. En réalité, il y a une reconstruction identitaire.
Non, mais il y a un retard scolaire qui s'est accumulé. Il y a eu un retard de formation, il y a un retard d'intégration qui s'est accumulé dans certains quartiers.
Il n'y a pas uniquement les quartiers, là, on en parlait il y a 15 minutes, 20 minutes, en disant qu'il y a aussi en zone rurale, en des zones qui ne sont pas des grands ensembles, où vous avez des gens qui se radicalisent. Ce n'est pas uniquement la Seine-Saint-Denis qui pose problème. Et on l'a bien vu sur
des
départs.
Après, il y a des métastases, mais ce que je veux dire, le gros du problème est quand même.
Mais il y a aussi un vrai choix, c'est de se dire que. Et on en parlait sur les moins de 25 ans qui disaient qu'ils plaçaient au-dessus les lois religieuses sur les lois de la République. De même, à l'intérieur de certaines familles, on apprend d'abord la langue du pays d'origine. Par choix, et la raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer a demandé la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans, c'est pour permettre aux enfants de pouvoir s'intégrer, d'apprendre le français.
Bonne décision.
Et voilà. Et donc, ça prouve bien qu'il y avait cette situation-là qui se posait.
Françoise Laborde ?
Oui, je voulais reprendre l'exemple que cite Guylaine, quand elle parle de l'exemple allemand qui est capable, en effet, de scolariser, etc. Mais je pense que le problème de l'éducation nationale, c'est aussi le cœur de la problématique. Je pense que depuis les années 80, je n'ai pas où j'ai commencé dans le journalisme, j'ai dû faire 250 sujets sur les mérites de l'apprentissage et le modèle allemand qui permettait par l'apprentissage d'éviter à des gamins de traîner pendant des années dans des établissements où ils s'ennuyaient, où ils n'avaient rien à faire et qui pouvaient rentrer dans l'entreprise et après devenir qui, patron de Mercedes, qui, pas ça. Je crois qu'on a fait tous les sujets de la Terre, sous tous les angles possibles, sur le modèle allemand et l'apprentissage, ceci. Depuis les années 80,
mais le 100% d'élèves au bac est une très très mauvaise idée.
On y est quasiment, on est à 95%. Amine El-Khatmi, un mot là-dessus ? L'intégration ?
Oui, mais parce que l'Allemagne fait quand même, Françoise, des efforts. Par exemple, lorsque vous arrivez, que vous êtes vous migrant, par exemple, vous avez un parcours d'apprentissage de la langue en Allemagne qui est de 600 heures. En France, c'est 200 heures qui, en plus, sont déléguées par l'État à des associations qui, bah, c'est le sort des associations. Certaines sont bonnes, d'autres moins. Et donc, vous avez 200 heures pour apprendre. Et quand on sait que l'apprentissage de la langue est la condition première d'une bonne intégration, bah, on voit que notre pays n'en fait pas suffisamment.
Les Länder aussi qui s'en occupent. Hein. C'est
600 heures partout.
Et donc, je sais bien, mais ce qui marche aussi, c'est pas décidé de la rue de Grenelle. Voilà. Il y a aussi cette espèce de flexibilité des Länder.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On parlera politique, vous voulez bien, avec la droite qui entonne le grand air de l'unité, puisque désormais ce n'est pas un congrès, c'est bien une primaire auquel nous aurons droit. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Punchline avec nos débatteurs Françoise Laborde, Jeannette Bougram, Guylaine Ottenheimer et Amine El-Khatmi. On parle de la droite. Tiens, la droite a réussi à se mettre d'accord. Ils vont tous participer à ce congrès qui deviendra de facto une primaire puisqu'il y aura des débats. Valérie Pécresse, qui était mon invitée ce matin, l'a confirmé. Il y aura des débats des candidats de la droite. Écoutez d'ailleurs Valérie Pécresse qui dit qu'en fait, elle est l'ennemi, en tout cas l'adversaire que redoute le plus Emmanuel Macron.
Je suis une des adversaires qu'Emmanuel Macron redoute le plus. Et la preuve, Madame Ferrari, c'est qu'il a envoyé 5 ministres contre moi au régional. 5, pas 4, pas 3, pas 2.
Pareil dans les Hauts-de-France.
D'ailleurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 2 personnes, effectivement, qu'Emmanuel Macron craint aujourd'hui en France. 2 personnes qui peuvent rassembler la droite et le centre très largement et qui peuvent venir le ringardiser, lui faire vraiment concurrence sur le faire, sur les politiques, sur la transformation de la France, les réformes, l'autorité.
Voilà pour Valérie Pécresse. C'est pas faux. Le ticket, alors là, on ne parle pas de ticket, mais le ticket Bertrand Pécresse, c'est un ticket qui peut faire rêver les gens de la droite, Guylaine Ottenheimer.
Moi, je pense que c'est pour la droite, là, de se mettre en ordre de bataille, ça va un petit peu changer la perspective de cette présidentielle. Je pense, Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que Valérie Pécresse soit vraiment le meilleur, enfin le pire adversaire pour Emmanuel Macron. Elle lui ressemble un peu trop par certains aspects, ce côté très éduqué, grand diplôme, intelligente, un peu techno, assez libérale, assez raisonnable. Alors vraiment, il y a des nuances entre eux. Enfin, ils sont un peu dans la même mouvance. Alors que Xavier Bertrand, c'est depuis très longtemps positionné comme l'anti-Macron, et même physiquement, et même de sa part sa formation. On voit qu'il est vraiment l'inverse de Macron, et quand on voit les présidentielles se succéder, on voit toujours que celui qui arrive est un peu l'inverse de l'autre. Il y avait le grand Chirac, il y a le petit Sarkozy, il y avait le rond Hollande, et puis il y a le plus agité Emmanuel Macron. Donc toujours un peu, il y a un inverse qui est choisi par les Français. Voilà, donc moi je trouve que Valérie Pécresse est un peu trop sur le même créneau qu'Emmanuel Macron. Maintenant, on ne sait pas, là, on est vraiment dans le bleu pour savoir qui vont choisir les militants R. Là.
Et peut-être qu'il y aura une dynamique à Minéacadémie qui va se créer, parce que là, la droite est regardée sidérée, le phénomène Zemmour monté dans les sondages, et là, si elle arrive à se rassembler, à désigner quelqu'un, une seule personne, ça peut quand même rééquilibrer les choses.
Oui, et je ne sais pas s'ils sont si sidérés que ça par Zemmour, pour une raison qui paraît assez évidente. C'est que, en présence de Zemmour, le ticket de qualification au second tour baisse. C'est-à-dire qu'il passe de, grosso modo, 24-26, là où se trouvaient Le Pen et Macron. Dans cette configuration-là, le candidat LR est à 10 points derrière. Avec un second tour où Zemmour fait baisser Le Pen, c'est-à-dire qu'il la ramène dans le peloton, le groupe là à 3-4, bah vous avez 3-4 candidats.
Donc Zemmour roule pour la droite.
Mais c'est pas ça, mais c'est que paradoxalement, on a pu considérer au départ que ça allait définitivement les disqualifier, et avec le recul, on se dit, bah en réalité, si Zemmour reste là, même s'il baisse un peu, même si... Bah, un candidat LR qui est à 15, une campagne, s'il fait une bonne campagne, s'il arrive à 17-18, bah, ça peut jouer le second tour. Et un second tour Macron-Bertrand, moi, je ne sais pas ce que ça donne à ce stade.
Françoise Laborde ?
Ah oui, je suis d'accord, absolument. Surtout qu'on sait bien aujourd'hui que les intentions de vote ou les sondages ont une marge d'erreur absolument considérable et que voilà, on est à deux points ou trois, je sais pas, Guylaine nous le dira peut-être mieux tout à l'heure. Donc oui, il y a une marge d'erreur considérable. Et puis c'est vrai que si la droite veut exister au second tour, il y a pas photo. Je veux dire, il faut vraiment se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille. Et ils ont déjà beaucoup attendu, si je puis dire. Donc oui, c'est le moment ou jamais. Alors là, dans les trois qui sont en lice, Bertrand, Pécresse et Barnier. Barnier avait, si je puis dire, le préjugé favorable de l'homme qui est fidèle à ses convictions, qui ne s'est pas écarté du parti, qui est resté dans les instances, qui a été à Bruxelles, qui a eu un parcours, mais en même temps, il n'a pas des scores formidables, il n'a pas non plus le charisme et le punch que peut avoir même un Xavier Bertrand. Donc il est un peu plus lisse, c'est comme ça qu'on dit ?
Jeannette Bougrabe, sur le fait que la droite arrive en tout cas à parler d'une seule voix, peut-être, à un moment ou un autre.
Non, mais elle a une opportunité incroyable. Si elle arrive à se mettre d'accord et à jouer l'unité, elle a la possibilité, en tout cas, de gagner cette élection. Et ça, je le crois, parce que en réalité, on l'a bien vu avec les régionales. Valérie Pécresse disait qu'on lui envoyait des ministres. Elle a remporté sa région. Xavier Bertrand le donnait perdant dans une région difficile, en plus des Hauts-de-France, qui connaît des difficultés industrielles, qui connaît le chômage. Et donc, du coup, on voit bien que c'est quand même des gens qui, contrairement à Emmanuel Macron, qui ont une expérience locale, qui ont été ministres. Michel Barnier, il a été commissaire européen. Il a mené les négociations sur le Brexit. Il a quand même... Et puis moi, je trouve qu'il est assez courageux parce qu'en réalité, il est capable de tenir... On le croyait un Européen béat, mais même y compris sur la primauté du droit communautaire, il est capable de dire qu'il faut avoir une distanciation et un esprit critique sur des sujets difficiles, y compris sur l'immigration. Donc on voit bien que c'est quand même des gens qui ont de l'expérience, qui sont jeunes, mais qui ont de l'expérience. Et que je crois que... Et ça, c'est un peu le... peut-être un dysfonctionnement de la fin de cette Ve République, c'est qu'aucune majorité n'est reconduite depuis Jacques Chirac. Donc en réalité, l'alternance, je crois que là, les Français ont besoin, ont ce désir d'alternance. François Hollande n'a pas été reconduit, Nicolas Sarkozy n'a pas été reconduit, et donc...
Peut-être qu'il arrivera la même chose à Emmanuel Macron, Guylaine Ottenheimer. Il peut redouter, alors que ce soit Pécresse qui sorte en premier ou Bertrand de cette primaire, ils s'allieront à un moment ou à un autre.
Et ce qu'il y a, c'est que effectivement, depuis Pompidou, depuis Giscard, aucun président sortant n'a été reconduit, sauf période de cohabitation qui fait qu'il était perçu comme l'opposant à celui qui dirigeait le pays. Et pourquoi ? Parce que la présidentielle, on arrive, c'est la feuille blanche, je vais tout sauver, je vais tout réduire, c'est la feuille magique, etc. Et puis après, s'installe la déception. Je note cependant, c'est vraiment une nouveauté, c'est que la cote de popularité, les intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron semble assez solide et assez stable et à un niveau relativement élevé. Ce que je veux dire, c'est que quand même, il fait le trou. Jamais le favori du mois de septembre n'a été l'élu. Hein. Giscard était à 60% dans les sondages, il a été battu.
Balladur,
Jospin, on en a vu plein qui étaient les grands favoris et qui n'ont pas été élus. Donc, il faut se méfier. Mais avec Emmanuel Macron, on n'a eu que des surprises. Hein. C'est la première fois que quelqu'un arrivait, pof, et a été élu sans un parti, sans rien. Il pourrait très bien être élu. Maintenant, sur les sondages, c'est pas qu'il y a une marge d'erreur de 2%. Ça, évidemment, il y a même peut-être plus. Mais c'est qu'il photographie un moment qui est en fusion. On n'est pas à un moment du vote. Je suis sûre que les résultats, si c'était la veille d'un vote, ne seraient pas les mêmes. Mmh. Je pense que les Français jouent avec les sondages. Et quand ils mettent Zemmour...
Ils envoient des signaux.
Et quand ils mettent Zemmour à un niveau quand même très élevé, d'une certaine manière, écoutez-le. Écoutez-le parce que vous n'avez rien fait.
Oui,
et voilà. Et vous n'avez rien fait sur les quartiers, ceci, l'islam, l'islamisme, etc. Et il est entendu parce que quand même, là, ça se bouge sacrément. Tout le monde y va de sa proposition. Donc, et en plus, d'ici l'élection, il peut se passer plein de choses. Il y a à chaque fois des événements. C'est pas ça. Et puis, il y a les campagnes. Souvenez-vous, Ségolène Royal, elle était quand même favorite au mois de novembre. Puis, elle a eu des bourdes. Elle a fait une campagne un peu quand même vacillante. Et donc elle a perdu. Donc la campagne, ça sert à quelque chose. Et puis il peut y avoir des événements extérieurs, type UVA, on ne sait pas. Donc tout peut changer. C'est pas que les sondages ont raison, ont tort, se trompent de 2%, ça. Il photographie quelque chose qui n'est pas du tout un paysage d'élection.
Effectivement, Aminé El Khatmi, sur
oui,
les sondages.
Oui, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je trouve cette espèce d'emballement général un peu étrange, d'autant plus de la part de journalistes politiques qui, plus que quiconque, ont normalement un recul sur l'histoire et devraient se souvenir, effectivement, on peut prendre chaque présidentielle depuis 20 ans à peu près. Les favoris, Monsieur Juppé, on était déjà quasiment à constituer son équipe et son gouvernement. Tout le monde dans Paris n'avait plus d'attention que pour lui. Il était président. Bon, ça s'est mal fini. Effectivement, moi, j'étais dans l'équipe de campagne de Ségolène Royal. Je peux vous assurer qu'en septembre, octobre, novembre 2006, on s'y voyait. Et on se disait ça y est, on va faire qu'une bouchée de Nicolas Sarkozy. Bah, à la fin, ça s'est pas terminé comme ça. Qui aurait prédit qu'un président de la République serait empêché de se représenter, que de lui-même il devrait renoncer parce que tellement impopulaire. Bon, bah, il peut se passer tellement de choses. Gardons un peu notre sang-froid. C'est ce qu'on fait sur Europe 1. Et on verra en avril ce que les Français décident.
En même temps, ça anime le début de campagne, Françoise Laborde.
Ah bah oui, enfin, j'allais dire comme observateur, c'est vrai que il y a une forme, c'est un peu honteux de dire, mais une forme de jubilation de voir que ce qui était censé être écrit et de se dérouler de façon plomb-plomb, subitement il y a un personnage complètement disruptif qui arrive dans l'affaire et à chaque fois que il y a une nouvelle vague de sondages, on se dit est-ce qu'il va baisser ? Ah bah non, il continue à monter, donc il y a ça. Et il y a un petit côté un peu, tout le monde est un peu tétanisé, on voit bien que dans les partis politiques, on sait pas bien comment attraper l'affaire et les thèmes qu'il met en avant sont en effet repris par les uns et par les autres. Donc oui, ça a un côté complètement fou de voir à quel point cette affaire a pris une ampleur de façon extrêmement rapide, extrêmement puissante et de façon complètement inattendue. Alors maintenant, il y a deux questions. C'est est-ce qu'il va avoir les 500 signatures ? Parce que on sait aujourd'hui avec les obligations de transparence que les élus doivent dire à qui ils ont donné leur signature. Donc s'il n'y a pas des consignes ou s'ils veulent garder leur chance d'investiture, c'est compliqué de donner sa signature sans l'aval des appareils.
Et le deuxième point super vite parce que là on
oui, pardon. Non mais voilà. Et en plus il a un problème d'état-major manifestement. Mais
allez,
bon ça c'est un autre
merci
débat.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission sur Punchline et sur Europe 1. Dans un instant c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur notre antenne.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.